Je vous remercie. Et donc, nous pouvons passer maintenant aux questions et interpellations. Et on commence avec une question du groupe Ilkirch-Grafenstaden, c'est ma nature, sur le comité de rédaction d'Infographe.
Oui, c'est moi qui vais la poser, monsieur le maire. Lors du conseil municipal du 7 décembre dernier, en réponse à une interpellation de notre groupe, vous avez fait mention du comité de rédaction d'Infographe qui réalise chaque mois le choix des articles figurant dans cette publication. Vous avez indiqué que ce comité de rédaction était composé, je cite, d'élus et de citoyens qui ont proposé leur collaboration. Pouvez-vous nous préciser quelle est la composition exacte de ce comité de rédaction et dans quel cadre ces citoyens ont été amenés à rejoindre le comité de rédaction ? Cela nous a peut-être échappé, mais nous n'avons pas souvenir d'un quelconque appel à candidature. Je vous remercie de bien vouloir nous éclairer en toute transparence.
Merci, Madame Leleu. Alors, le comité de rédaction... Longchal, pardon, excusez-moi. Le comité de rédaction, j'étais assez surpris de la question, puisque déjà, dans les différentes instances, c'est toujours quelque chose qui est de toute façon géré par l'exécutif en place, hein, qui ne donne pas forcément lieu à une communication. On avait eu quelques candidatures de citoyens. Hein, on a Jean-Marie Kinsley et Monsieur Mesmer qui avaient proposé au début du mandat de pouvoir rejoindre le comité de rédaction. On y avait donné suite. Et puis sinon, il y a des élus de la majorité municipale avec quelques-uns de nos agents, notamment Madame Merck, le graphiste et notre journaliste qui a rejoint aussi les rangs de l'équipe communication pour pouvoir préparer les infographes, mais ça reste quelque chose de somme toute assez classique, comme il y avait lieu d'ailleurs sur le mandat précédent, auquel les membres de l'opposition d'ailleurs ou d'autres n'étaient pas associés. Donc ça reste un comité de rédaction classique, comme dans toute instance. Donc je n'ai pas plus d'éléments à pouvoir vous apporter. Ça reste quelque chose d'ailleurs dont le maire est le directeur de la publication. Donc le choix est fait par le maire et ses élus et deux citoyens qui avaient manifesté au début du mandat leur volonté de nous rejoindre. Et donc je vous laisse poser la question suivante. Monsieur Barman.
Oui, c'est la question concernant le bâtiment 1922. Monsieur le maire, dans l'infographe de février, vous indiquez avoir retenu la candidature de la société Hybride. Je cite, « foncière de dynamisation territoriale spécialisée dans la transformation de friches industrielles pour le projet de transformation du bâtiment 1922 ». Selon les informations que vous voulez bien distiller dans l'infographe, votre projet semble bien avancé. Renseignement pris sur l'heureux lauréat. Il s'agit d'une entreprise montpelliéraine, comme qu'ils disent, avec des références presque aussi faibles que leurs fonds propres. Peut-être n'est-ce qu'une simple coïncidence que vous ayez choisi de livrer ces informations alors que nous vous interpellions dans notre tribune, dans la même édition d'Infographe, pour avoir plus d'informations, justement. En tant que conseillers municipaux, nous sommes toujours aussi surpris de devoir nous reporter à la Gazette municipale pour découvrir ce type d'informations. Merci de bien vouloir nous indiquer quelles étaient les modalités de la consultation à laquelle vous faites référence dans l'article, quels étaient les candidats et quels critères d'attribution ont été appliqués. Nous aimerions également avoir une présentation du projet autrement que dans un prochain infographe. Merci.
Merci, Monsieur Barman. Alors, là aussi, j'étais assez surpris. Alors déjà, c'est vrai que quand j'ai lu renseignement pris sur l'euro lauréat, il s'agit d'une entreprise montpelliéraine comme Kitties, avec des références presque aussi faibles que leurs fonds propres. Je trouvais ça quand même un peu gonflé et un peu discriminant. Ça voudrait dire que toute entreprise qui vient de Montpellier serait une entreprise qui serait insolvable ou qui serait bancale, ce qui est quand même un petit peu limite. Mais bon, passons. Alors, là aussi, j'ai été surpris, puisqu'il y avait... à l'époque, en 2021, l'initiative de réfléchir sur le devenir du bâtiment de 1922, d'ailleurs, ça faisait suite au lancement de la plateforme ilkirchois.eu. Hein. Et donc, il y avait eu du 1er mai à l'été 2021 un choix qui était un peu sur papier libre, hein, où les citoyens pouvaient donner des idées sur le devenir de ce bâtiment 1922. On a eu plus de 200 contributions, où c'était des contributions en disant oh, « bah, un cinéma, un restaurant, un pôle de loisirs, un tiers-lieu, un lieu d'exposition, un musée. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de propositions. Ce qui a permis de faire une deuxième consultation ensuite sur la fin d'année 2021, où là on a essayé par rapport aux contributions qu'il y avait eu sur la première de faire plutôt des activités et donc de donner la possibilité aux citoyens de pouvoir voter pour une ou deux activités qu'il faudrait voir sur ce site. Et donc en 2022, nos services et en l'occurrence Monsieur Tissot qui dirige le service a rédigé l'appel à projet. Donc l'appel à projet, il est là, hein, l'avis d'appel à projet, qui est en ligne sur le site internet, qui était d'ailleurs en ligne sur plein de sites, puisque j'ai encore recherché cet après-midi. Vous pouvez aller sur Marché Public, sur les différents sites de Marché Public. Il était vraiment public. Et donc ça, il a été publié le 4 février 2023, et on a laissé jusqu'au 7 juillet 2023 à midi pour pouvoir répondre à ça. Et donc on a eu ensuite 3 candidatures. Et donc ensuite, il y a un rapport qui est public lui aussi, que d'ailleurs on pourra vous envoyer si vous le souhaitez, qui est une analyse par nos services des 3 offres qu'on a reçues. Hein. Donc il y a 3 offres. Il y avait une offre de Thibaut Muller qui est architecte, qui s'appelait Rêver le bâtiment 1922. Il y avait l'offre de l'AJICRE, Association d'aide aux jeunes investisseurs, créateurs et repreneurs d'entreprises. Et il y avait une troisième offre d'Hybride, justement en la personne de Monsieur Tissier, qui est le fondateur d'Hybride. Et donc, tout un cahier des charges avait été établi par nos services. Et donc, il y a eu un calcul des points qui fait qu'on a pu annoncer le 23 octobre par courrier. Hein, d'ailleurs, là, j'ai le courrier pour Monsieur Tissier, qu'il avait remporté l'appel à candidature, puisqu'il avait été désigné lauréat avec 80 points sur 100. Mais tout ça a fait l'objet d'une procédure tout à fait légale qui a été menée par nos services et par la personne de M. Tissot, dont vous connaissez les qualités professionnelles. Et donc, aujourd'hui, on a un dialogue, on va dire, exclusif avec le lauréat qui nécessite d'avoir un certain nombre de discussions dans un premier temps qui permettent de définir le projet. Hybride, que vous mettez à demi-mot en cause, mais bon, que vous mettez quand même en cause, vous aurez vu qu'ils ont quand même des références intéressantes avec, par exemple, le marché du Lez à Montpellier, mais aussi d'autres projets sur lesquels ils travaillent, hein, sur le projet des Halles de Rungis, à Angoulême, ils ont pu travailler, enfin, ils ont travaillé partout en France, ils ont quasiment accompagné une vingtaine de projets de marché couvert ou de Halles gourmandes, de tiers-lieux, hein, puisque l'enjeu de leur projet, c'est plutôt de faire une Halle gourmande avec autour de la restauration, des animations et puis un tiers-lieu. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouvait ça intéressant, puisque ça faisait écho au marché couvert qu'on souhaite pouvoir mettre en œuvre dans notre commune. Et donc c'est pour ça qu'on est rentré en discussion et sur des discussions pour le moment d'ordre technique, et que bien évidemment, une fois que le projet sera stabilisé, il y aura une présentation officielle qui sera faite du projet. Mais ça nécessite d'abord de travailler. Et Hybride, vous avez pu le voir si vous avez été chercher sur leurs références, ils travaillent systématiquement aussi avec des promoteurs du secteur dans lequel ils interviennent. Et donc, ils s'associent. Ils sont plutôt une aide à la maîtrise d'ouvrage et comme un aide à la, finalement comme un AMO qui accompagne des promoteurs et des collectivités pour pouvoir faire un projet, mais ça reste bien un projet aujourd'hui qui est tourné vers l'attractivité de la ville et un lieu de vie pour nos concitoyens, qui d'ailleurs donnerait beaucoup de cachet avec la villa juste à côté, d'avoir de l'offre de restauration, une halle gourmande et d'autres activités. Donc voilà pour la réponse sur ce sujet. Et je laisse maintenant Madame Gendreau poser sa question écrite.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous souhaiterions revenir sur différents sujets qui ont fait l'objet de votre part d'une communication active ces derniers mois. Lors du conseil du municipal du 7 décembre 2023 et du débat que nous avons eu au sujet des bons d'achat aidés, opération dans laquelle la ville a perdu à ce jour 269 000 euros, vous nous aviez annoncé, ce qui a été repris dans les derniers 12 décembre, que vous alliez attaquer aux dirigeants de Kitties au pénal. Est-ce que cette procédure a été engagée ? Durant la nuit d'Halloween, 3 adolescents, dont 2 Ilguirchois, se sont livrés à des dégradations et se sont rendus coupables d'incendie volontaire. Nous condamnons bien évidemment fermement, comme tout le monde, ce genre de comportement. À cette occasion, vous avez très rapidement dit avoir demandé au bailleur social, à savoir Habitat de Lille, d'engager une procédure auprès du juge civil afin d'obtenir l'expulsion des familles concernées. En fait, vous saisissiez vous-même, puisque la présidente d'Habitat de Lille n'est autre que votre adjointe. À ce jour, où en sommes-nous de cette procédure ? Lors de la cérémonie des vœux le 18 janvier dernier, vous avez affirmé que dans la procédure relative au mariage annulé, vous aviez été intégralement blanchi par la justice. Or, le compte-rendu de l'audience du 14 février, qui est en effet dans les DNA du 15 février 2023, fait clairement apparaître que la procédure a été annulée puisque l'assignation était caduque, n'ayant pas été déposée dans les délais impartis. Nous aimerions savoir si, contrairement au compte-rendu de la presse, la procédure est allée à son terme et si vous avez été blanchi par la justice ou si l'audience a été annulée, donc la justice ne s'est pas prononcée. Lors de cette même cérémonie des vœux, quand vous avez abordé le sujet de la sécurité, vous avez présenté au public des statistiques très flatteuses, intégralement en pourcentage, mais sans aucune référence ni source. D'où proviennent ces chiffres ? Pas de la source officielle du ministère de l'Intérieur, car ceux-ci n'ont été publiés que le 31 janvier 2024. En outre, les données disponibles sont au niveau départemental et non au niveau de chaque commune. Rappelons que la Chambre régionale des comptes, dans son rapport du 14 septembre 2023, souligner l'absence de suivi et de pilotage fin de l'activité pour pouvoir rendre des comptes sur les moyens mis en œuvre, donc l'absence de statistiques. D'ailleurs, lors d'une conférence sur le rôle de la police municipale, au cours d'une conférence du 3 décembre 2023 à l'Iliade, la question a été explicitement posée par un participant à l'un de vos responsables afin de connaître les données chiffrées de la délinquance sur notre commune. La réponse qui lui a été apportée est qu'il n'y avait pas de statistiques disponibles. Pourriez-vous nous dire exactement d'où viennent ces chiffres ? Quelle est leur source ? Est-elle officielle ? Nous préciser pourquoi ces documents ne nous ont pas été communiqués, pas plus qu'à la Chambre régionale des comptes. Je vous remercie pour vos réponses précises sur ces différents points, Monsieur le maire.
Merci, Madame Gendreau. Alors, je vais déjà laisser la parole à Monsieur Scheuer pour la partie Kitiz et je vous répondrai sur la suite.
Merci, Monsieur le maire. Alors, Madame Gendreau, concernant Kitiz, la ville n'a rien perdu à ce jour puisque une procédure... puisqu'une procédure au civil est en cours et que la société Kitiz, certes en redressement judiciaire, a toujours une existence juridique. Je rappelle que le montant dû a été provisionné dans nos comptes. Pour information, nous avons également été contactés par une communauté de communes qui semble également être affectée par un impayé de la part de la société Kitiz. Pour répondre à votre question, la plainte a été effectivement rédigée par notre avocat, par l'avocat de la ville, et il se charge de transmettre sa plainte au procureur de la République.
Merci, Monsieur Scheuer. Alors, pour ce qui concerne l'affaire des expulsions de l'incendie de la nuit d'Halloween, on a effectivement saisi Habitat de Lille, qui, en droit, même si Mme Seigneur est mon adjointe, quand elle est présidente du CA, est une autre personne, hein, donc il faut quand même la distinguer, et je pense qu'elle fait bien la distinction et la part des choses entre ces deux rôles, donc ce n'est pas si simple que ça. En tous les cas, il y a une procédure qui est en cours contre les incendiaires au pénal, et vous savez qu'en droit, il faut d'abord que la procédure au pénal puisse être jugée pour qu'ensuite la procédure civile puisse démarrer. Donc Habitat de Lille s'est doté d'un avocat qui a travaillé sur le dossier et qui attend tout vraisemblablement que l'affaire soit définitivement jugée au pénal pour qu'ensuite on puisse enchaîner sur la procédure civile. Et donc ça m'a été confirmé par la présidente d'Habitat de Lille que Habitat de Lille était bien prêt à mener l'action en suivant dès qu'on aurait la notification de la procédure au pénal. Sur l'affaire du mariage, on a effectivement, avec mon avocat, réussi à tout de suite pouvoir avoir une ordonnance de caducité, hein, puisque les règles de la partie adverse n'avaient pas été respectées, notamment dans la procédure. Mais nous avions de toute façon un dossier qui était tout à fait valable. Et vous savez que, malheureusement, en droit, à partir du moment où la partie adverse ne vient pas réattaquer, d'une certaine manière, la procédure s'éteint, à moins qu'ils souhaitent réattaquer, mais n'ont pas souhaité le faire. Et je pense qu'ils ont bien senti la fragilité sur ce dossier-là. Enfin, j'ai été très surpris sur le sujet de la sécurité et sur les chiffres, parce qu'il s'agit de chiffres du ministère de l'Intérieur. Et il s'agit des chiffres pour la commune d'Ilkirch-Graffenstaden qui nous ont été communiqué par la direction départementale de la sécurité publique le 10 janvier. Et donc, pour votre information, il y a une sectorisation en 3 secteurs à Ilkirch-Grafenstaden. Donc, on a même une sectorisation en 3 secteurs. Et donc, on a 3 secteurs qui sont définis. Et donc, on a des chiffres qui sont annualisés, qui nous sont communiqués, et donc qui sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc, de dire que ce n'est pas possible que ce soit les chiffres du ministère de l'Intérieur et que ça n'existe que de manière départementale ou nationale, c'est absolument faux. Et j'ai été étonné puisque vous avez été adjointe pendant 2 mandats et donc je pense quand même que c'est un élément qui est porté à la connaissance. En tout cas, je pense quand même que mes collègues savent qu'on a des chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous donnent les éléments de délinquance, même si en parallèle de ça, nous faisons un travail avec la police municipale où, par exemple, là, ils viennent de produire un bilan opérationnel du 1er janvier au 31 décembre 2023 où ils remettent tous les différentes statistiques. Alors, par exemple, ils disent qu'on a reçu 1600 appels contre 1300 en 2022. On a reçu 500 personnes contre 200 en 2022 qui se sont présentées au poste de police municipale. Et après, il y a toutes leurs procédures. Par exemple, fiche de recherche positive, refus d'obtempérer, outrage, conduite sans permis, découverte de dépôts sauvages. Enfin, voilà, il y a nos différentes statistiques, mais qui restent des statistiques internes qui font ensuite l'objet d'une procédure qui est transmise, mais qui nous permet d'avoir un pilotage de la police municipale. Et d'ailleurs, je voudrais quand même préciser que ce que vous avez relevé de la Chambre régionale des comptes n'était absolument pas une histoire de statistiques par rapport à des statistiques de la délinquance, mais bien une demande de la Chambre régionale des comptes d'une structuration administrative d'un service municipal, au même titre d'ailleurs que les autres services, et qui demandait que, du fait de l'augmentation des effectifs, il y ait une vraie structuration qui soit faite, ce à quoi on a travaillé notamment avec M. Cougil et M. Millot, où on a beaucoup travaillé, le directeur général aussi qui nous a accompagnés, pour pouvoir avoir une structuration plus efficiente du service, puisque forcément, comme on passait d'un petit service à un service un peu plus important, avec par exemple aussi de l'accueil, de la réponse au téléphone, il fallait structurer. Mais il y a désormais un organigramme clair avec des missions, un projet de service qui a été mené à bien en lien avec le directeur général des services et une convention de coordination avec l'État qui vient d'être renouvelée d'ailleurs et qui est beaucoup plus ambitieuse du fait de ces projets de service. Donc il ne faut pas confondre en fait ce que la Chambre régionale disait sur l'organisation administrative et l'organisation administrative d'un service, en fait. C'est pas du tout, c'est pas les statistiques qu'on nous demandait de la délinquance pour justifier les moyens. Et d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes, si, en lisant bien le rapport, n'a jamais remis en cause le fait que ça soit une volonté et que la volonté soit justifiée, d'ailleurs. Aucune ligne ne remet en cause le fait d'avoir une police municipale augmentée avec des moyens augmentés. Au contraire, ils disent que l'augmentation des moyens pourra permettre de réduire progressivement les heures supplémentaires, puisque les heures supplémentaires démontrent quand même qu'il y a une forte demande auprès de la police municipale, et notamment sur des horaires décalés.